Nzamba.
Nzambi la samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Nous sommes à mercredi 9 mars 2022. Vous êtes bien sur la radio Nzamba Gate Kakawe. C'est l'heure du journal. D'abord les titres. L'incompréhension plane dans la résiliation par l'État du contrat de la société Burundi Musongati Mining. Des témoins de la signature de ce contrat en 2014 indiquent qu'il était conforme au code des miniers burundais. Le Burundi est-il devenu une hécatombe pour les femmes? Plus de 150 ont été assassinées depuis la prise du pouvoir par Evariste Ndayishimiye. Un chiffre dont s'alarme la Ligue des droits de l'homme ITK, qui lance un appel au chef de l'État pour plus de protection des femmes et de leurs droits. Un retour qui n'est pas le bienvenu, c'est la nouvelle présidente du CNT, Vestine Nahimana, depuis ce mercredi, qui avait déjà occupé ce poste il y a quelques années. L'Union burundaise des journalistes, qui n'a pas tardé de réagir, dit ne rien attendre d'elle. Voilà pour les titres. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Le contrat entre l'État du Burundi et la société BMM Burundi Musongati Mining a été conclu en 2014 conformément au code minier burundais, bien que résilié par le récent décret du président Evariste Ndayishimiye. Des sources des dignitaires de l'époque estiment que le permis d'exploitation du nickel de Musongati était pourtant clair sur le rôle de chacune des parties au contrat. Beni Aksarakan.
Le permis d'exploitation du nickel de Musongati par la société BMM a été annoncé pour la première fois en 2014 vers la fin du deuxième mandat de Pierre Nkurunziza. Il s'agit d'un contrat entre la société Burundi Musongati Mining avec l'État du Burundi pour un accord d'exploitation de 25 ans avec possibilité de renouvellement de 10 ans selon le ministre de l'énergie et mines de l'époque, l'ingénieur comme Manirakiza, qui l'a annoncé dans une conférence de presse au mois de juin 2014 en précisant que les deux parties ont signé une convention qui accordait 85% des actions à la nouvelle société et 15% seulement revenait à l'État du Burundi. Il était encore convenu que dans un premier temps, la société BMM va effectuer des activités de délocalisation et de paiement des indemnisations de la population qui vit sur le site. Ces activités n'ont jamais été honorées selon les sources de la population. Les activités se sont limitées à l'exploration des échantillons du nickel sur ce site de Musongati pendant les 8 ans d'exercice. Le décret du président Evariste Ndayishimiye qui résilie ce contrat n'a pas fait mention des raisons à l'origine de cette décision, mais son premier ministre Alain Guillaume Wunyoni avait déjà manifesté la colère de son gouvernement au sujet de la gestion des contrats avec les sociétés minières. L'ancien deuxième vice-président de la République, qui s'exprimait sur ce sujet dans le journal Iwachu, Jarve Rufikiri, a indiqué que l'accord a respecté le code minier burundais, une bonne législation, mais difficile dans sa mise en application, selon cet ancien dignitaire en charge du secteur de l'économie. Il souligne l'influence de l'ancien président Pierre Nkurunziza dans le dossier, en précisant que BMM louait parfois des jets pour les missions du président à l'étranger, alors que cela n'était pas prévu par la convention. L'État du Burundi était lié par un contrat avec la société BMM. Sa résiliation pourrait amener des procès contre l'État, selon toujours les propos de l'ancien vice-président de la République.
Les cultivateurs des provinces Kayanza et Karuzi indiquent que la saison culturelle va se terminer sans qu'il y ait pu s'aimer à cause du manque des fertilisants de l'entreprise FOMI. Les délais de 10 jours qui ont été fixés par le ministre en charge du développement communautaire ont été pour eux une promesse vaine. Plus de détails avec Vanessa Mohiteka.
Les cultivateurs de la province Karuzi s'indignent contre la distribution de l'engrais chimique en petite quantité par rapport à la quantité commandée. Ils s'inquiètent que même si l'engrais arrive aujourd'hui, ils vont s'aimer sans espoir de récolter à cause de ce retard par rapport à la saison culturelle B.
Quand il y a eu cette distribution, certains d'entre nous n'ont reçu qu'un seul sac, alors qu'ils en avaient commandé plusieurs, et les autres n'ont rien reçu. L'engrais qui n'a pas été disponible à temps pour la saison de semis des haricots, nous allons semer sans espoir de voir les récoltes.
Quant à ceux de la province Kayanza, essentiellement dans les communes de Muluta et Kabaluri, la promesse de livraison de l'engrais chimique dans un délai de 10 jours par le ministre de l'Intérieur a été une promesse vaine. parce que la livraison a toujours été distribuée à compte-goutte.
Le ministre avait promis que l'engrais chimique Fomi allait être disponible dans 10 jours. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu ce produit. Même s'ils amènent l'engrais, ils donnent une quantité insignifiante.
À la rédaction de la radio Inzambagati Kakawi, nous avons essayé de joindre les responsables de l'entreprise FOMI et le porte-parole du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire pour éclairer l'opinion sur le problème qui cause cette carence des fertilisants FOMI, mais sans succès.
La pénurie des fertilisants produits par la société FOMI demeure alarmante. C'est le constat de Maître Vital Chimilimana, président du Forum pour le renforcement de la société civile. Selon lui, l'État doit s'assurer que cette société ne serait pas en train de vendre ses fertilisants dans les pays voisins. Maître Vital Chimilimana appelle les cultivateurs et les membres de coopératives agricoles d'insister auprès de l'État afin que cette question soit résolue. On l'écoute.
Et nous pensons que pour son installation et son fonctionnement, la société FOMI a dû obtenir des autorités publiques des subsides ou tout au moins des facilités. Et à cet égard, nous pensons en revanche que les pouvoirs publics gardent un œil vigilant sur le travail de la FOMI parce que ces résultats ou les produits de la FOMI viennent soutenir les agriculteurs afin qu'ils puissent produire encore plus. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés que la FOMI ne produit plus une quantité suffisante d'intrants agricoles comme elle le faisait auparavant. Et nous avons entendu qu'il y aurait des trafics de ces produits vers les États voisins, ce qui serait surprenant, étant donné que ces mêmes autorités visent le renforcement de l'activité agricole ou de la production agricole sur l'ensemble du territoire national, et que ces autorités ne sont pas sans connaître que les intrants agricoles importés depuis les pays étrangers sont très chers, et qu'aujourd'hui, il serait ces produits exportés vers d'autres États. Et ceci est traduit ou nous fait penser à des pratiques de mauvaise gouvernance ou de fraude qui sont initiées dans ce domaine, lesquelles doivent faire objet d'une enquête sérieuse par les autorités du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et que les autorités ou les responsables de la FOMI doivent en répondre devant ces autorités. Nous pensons également que les représentants du peuple et qui savent combien l'agriculture est l'activité principale pour bien des ménages, ces représentants du peuple doivent poser des questions au ministre de l'Agriculture pour clarifier cette situation. Le président de la République lui-même devrait intervenir sans délai pour que ces agriculteurs ne manquent pas de produits. Surtout que nous sommes au cours d'une grande saison culturelle.
Pourquoi le port du masque est-il obligatoire pour les personnes vaccinées? En l'état des connaissances, les vaccins aujourd'hui disponibles ou en cours de développement réduisent la sévérité des symptômes. La contagiosité diminue également, mais ne disparaît pas totalement. Les gestes barrières, dont le port du masque, restent donc nécessaires même après la vaccination.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakawe.
Plus de 150 femmes ont été tuées depuis l'arrivée au pouvoir du président Evariste Ndayishimiye en juin 2020. Cela est contenu dans un rapport sur les violations des droits des femmes que la Ligue ITK a transmis au chef de l'État à l'occasion de la célébration de la journée dédiée aux droits des femmes. En chair, Nicolas Guidze, président de la Ligue ITK, indique que son organisation a voulu interpeller le président afin qu'il fasse quelque chose pour arrêter cette barbarie à l'endroit des femmes en particulier et au peuple burundais en général. Suivez en chair Nicolas Guidze, président de la Ligue ITK.
Ces chiffres que nous avons pu collecter, même s'ils sont alarmants, ils ne sont pas exhaustifs. Nous ne pouvons pas couvrir tout le pays. Pour dire que les chiffres que nous présentons sont représentatifs. Depuis qu'il est au pouvoir, nous avons pu documenter 153 femmes assassinées, 3 femmes arrivées, 186 femmes victimes de violences sexuelles, 9 torturées et 78 arrêtées arbitrairement. Au moins pour le moment, nous entendons des discours qui tranquillisent, des discours qui font référence aux pays limitrophes développés. Mais là aussi, on a voulu lui faire un grand deuil que ces pays se sont développés parce qu'ils ont donné la place à la femme. Qu'il faut les emboîter le pas alors. qui veut que le Burundi se développe. Nous savons que les réponses des gouvernements, c'est de notre gouvernement, il ne veut pas croire à nos rapports. Mais au moins qu'il exige un contre-rapport qui peut être produit par la CNDH ou d'autres ministères. Par ailleurs, nous saisissons cette occasion pour demander au gouvernement que ces ministères continuent à produire de ce genre de rapport. Le dernier rapport qui a été publié en rapport avec les violences faites aux violences basées sur le genre, c'était en 2016, c'est le rapport qu'on a vu sur le site du ministère.
Un nouveau rapport accablant sur de graves violations des droits de l'homme au Burundi, il vient d'être publié par l'Initiative pour les droits de l'homme au Burundi. Selon l'IDHB, le gouvernement devrait traduire en justice les auteurs de ces violations déjà identifiées par ce même gouvernement. Karina Tatsakian, chercheuse au sein de l'initiative, donne des exemples de victimes et de bourreaux.
Le rapport met l'accent sur 3 cas où les victimes sont décédées des suites de leur torture, ainsi que sur un cas de disparition forcée où la victime est présumée morte. Ce ne sont pas des cas isolés. Nous avons établi l'identité de plus de 55 personnes torturées en 2021. De nombreux autres ont été enlevés et détenus au secret pendant de longues périodes. La plupart de ces victimes étaient des membres du parti d'opposition, le CNL, ou des personnes accusées de collaboration avec des groupes armés. Il y a tout de même quelques signes d'espoir, par exemple à la suite du décès en décembre du membre du CNL Augustin Matata, qui avait été torturé par le SNR. Le président a déclaré que c'était un crime grave et que la personne qui l'avait torturé devait être punie de façon exemplaire. Le tortionnaire en question, c'est l'agent du service de renseignement Gérard Ndayisenga, qui a été arrêté et qui se trouve actuellement en prison. Notre rapport documente son long passé cruel et violent depuis au moins 2017, ainsi que le bilan du commissaire de police Moïse Arakaza, responsable de nombreux actes de torture à Kabeji, en province Bujumbura, et avant cela à Mugamba, en province de Bururi. Ces deux officiels semblent être tombés en disgrâce depuis décembre. C'est donc, à notre avis, un moment opportun pour les autorités de les traduire en justice. Et dans le cas de Ndayisenga, non seulement pour le rôle qu'il aurait joué dans la torture d'Augustin Matata, mais également pour les nombreux autres crimes qu'il a commis dans les différents postes qu'il a occupés au SNR. Le rapport décrit également la recrudescence d'exactions commises par des Imbonerakure dans plusieurs provinces, ainsi que la poursuite de restrictions à la liberté d'expression. En particulier, la condamnation à 5 ans d'emprisonnement de l'avocat et ancien défenseur des droits humains, Tony Germain Kina, après un procès inéquitable. Nous demandons à l'Union européenne en particulier de saisir l'occasion, depuis la levée de ces restrictions à la coopération, pour insister sur des actions concrètes de la part du gouvernement burundais en matière des droits humains.
Et pour terminer, Vestine Nahimana est la nouvelle présidente du Conseil national de la communication. Elle a été élue ce mercredi pour diriger cette institution. Elle s'est engagée à bien collaborer avec tous les partenaires, surtout avec les médias, pour un changement positif. Mais l'Union burundaise des journalistes, UBJ, dit ne rien attendre de bon de Vestine Nahimana. Jean-Marie Ndabashinze.
Vestine Nahimana était un candidat unique. Elle a été élue à l'unanimité par les 12 membres du comité exécutif du Conseil national de la communication, CNC. Après son élection, elle a promis de travailler dans la continuité, de collaborer surtout avec les médias pour arriver à un changement positif pour l'intérêt du pays.
Nous allons continuer à vivre la famille, et surtout la famille des médias, avec qui j'ai beaucoup d'expérience, avec la famille des journalistes, avec qui nous devons mener une lutte commune qui est celle de faire changer le monde. Les médias, c'est un outil, c'est un bon outil, un outil qui peut servir à construire et qui peut servir à détruire. Je reviens avec le même langage que mon souhait le plus ardent, c'est de bâtir un monde meilleur, d'utiliser cet outil dans le sens positif.
Alexandre Niungeko, président de l'Union burundaise des journalistes UBJ, se dit pessimiste quant à la valeur ajoutée dans l'avenir de Vestine Nahimana à la tête du CNC. Il dit par ailleurs qu'elle n'est pas assez outillée pour diriger cette institution.
Ça a été toujours une catastrophe d'avoir cette personnalité à la tête de ce conseil. On n'a toujours pas compris pourquoi on nomme quelqu'un dans un domaine qui n'en sait rien. C'est comme si on prenait un maçon pour le confier à soigner les personnes ou vice-versa. Ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit, chacun est compétent dans sa matière. Il est aberrant, bien évidemment, que nous ayons quelqu'un qui vient pour réguler les médias, réguler le travail des professionnels, alors que on n'en sait rien de cette profession.
Vous saurez que ce n'est pas pour la première fois que Bété Naïmana dirige le CNC. Elle avait déjà occupé son poste de 2005 à 2008. Elle remplace à son poste de William Itoué, dernièrement nommé ambassadeur du Burundi en Éthiopie.
C'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba Gatika Kawe pour la production de ce journal. À toutes, à tous, merci de nous rester fidèles. Au revoir.